Le 7 octobre 2022, les élèves de seconde et terminale professionnelle de la cité scolaire de l'Orgue vont découvrir et interviewer les auteurs et libraires du Festival du Livre de Montsartou. Reportage signé Richard Gringuis, Steven Guyot, Angèle Rémy et Jules Collard.
La librairie Dernier Rempart, anciennement Masséna, nous offre une petite interview sur le nouvel ouvrage de Goldorak.
On a la chance d'avoir ce week-end deux des cinq personnes qui ont relancé Goldorak cette année, fin 2021, début 2022, en particulier Brice Cossu et Alexis Sandlac. Vous allez même les voir avec leur personnage favori quand ils étaient petits, puisque dès leur plus jeune âge, ils avaient la chance de pouvoir faire des petits dessins. Et ils ont réalisé leur rêve en faisant le Goldorak quelques années plus tard, avec tout leur professionnalisme. C'est une super équipe qui était passionnée de Goldorak au démarrage et qui se sont dit, c'est pas possible. On ne peut pas laisser l'animé se terminer comme ça. Il y a forcément une belle histoire à raconter derrière. Et donc, ils ont contacté le mangaka japonais qui s'appelle Gō Nagai, qui a créé Goldorak. Et après des mois et des mois de négociations, ils ont eu l'accord de Gō Nagai pour créer cette histoire, 150 pages à peu près, qui reparle de Goldorak, non pas comme elle l'était autrefois, mais 20 ans plus tard. Comment l'évolution du personnage s'est déroulée, comment Actarus se retrouver maintenant avec des doutes peut-être sur ce qu'il avait fait quand il était plus jeune. Et on retrouve tous les personnages favoris. Il y a des super combats entre Goldorak d'un côté et les Golgoth de l'autre, mais dans une dimension beaucoup plus profonde, puisque tout d'un coup on est confronté à des doutes sur est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire, est-ce qu'on devait tuer toutes les personnes qu'on a tuées. Et donc toutes ces problématiques qui sont très très actuelles sur l'accueil de l'autre ou pas, le conflit ou pas, et bien on les retrouve dans cet ouvrage-là.
Est-ce que vous avez déjà lu l'ouvrage Goldorak ?
Les mangas originels, moi je les ai jamais lus. En fait, moi je suis tombé dans Goldorak quand j'avais à peu près votre âge, donc ça a beaucoup plus que 25-30 ans maintenant. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout les Wakani, les ADN et les autres plateformes de streaming de manga d'animé qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y avait entre 3 et 6 chaînes de télévision, et quand on passait des dessins animés, on était super présents, actifs, et Goldorak faisait partie des animés phares de ces années-là. Là, ça remonte aux années 80. Et moi et de très très nombreuses personnes à cette époque-là, on était vraiment fans. Et donc retrouver ce personnage-là qui est devenu plus mature plusieurs décennies plus tard, non seulement ça nous permet de nous remémorer un peu le plaisir qu'on avait quand on était enfant, mais en plus à découvrir une histoire moderne, puissante, bien pensée, qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Donc ça, c'est vraiment... Les auteurs sont vraiment les champions du monde pour ça, parce que réussir à créer une histoire de toutes pièces qui va tenir en haleine 30 ans plus tard, les plus anciens d'entre nous, mais aussi les plus jeunes, parce que c'est un gros succès auprès des plus jeunes, c'est vraiment un super exploit.
Qu'est-ce qui vous a marqué, on va dire, dans Goldorak, en général ?
En général, moi ce que j'aime chez Goldorak, c'est ce côté un petit peu manichéen entre les puissances du bien et les puissances du mal, telles qu'elles existaient au départ, et comment il y a un arc de transformation assez complexe qui se fait dans la nouvelle version, où les personnages ne sont pas aussi blancs et aussi noirs qu'autrefois, et on voit un degré de complexité qui les rend beaucoup plus impressionnants, et aussi beaucoup plus proche de nous, parce qu'on a aussi notre part d'ombre, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve là-dedans.
Goldorak, vous trouvez que c'est mieux de le lire ou de le regarder dans l'animé
Comme je te le disais, moi j'ai vraiment vécu à travers l'animé au démarrage, et cet ouvrage-là n'existe qu'à l'écrit. Donc forcément, c'est un petit peu la beauté des deux mondes, de pouvoir s'imprégner de l'animé et en même temps pouvoir découvrir la suite sous un format papier.
Est-ce qu'il y a une scène en particulier dans Goldorak qui vous a marqué ?
Alors, moi j'aime beaucoup les combats avec les Golgoths parce que je les trouve juste gigantesques. Et Goldorak a ce côté parfois invincible. Et dans cet ouvrage-là, on se rend compte qu'il y a quand même des failles. Il y a des failles dans l'armure, il y a des failles dans la carapace. Et ça le rend encore plus sympathique. Et je pense que c'est ce qui explique en partie l'énorme succès de librairie qu'est cet ouvrage-là, hein, puisque ça s'est vendu à 300 000 exemplaires, ce qui, dans le monde de la bande dessinée, est un énorme succès. Et pas que dans le monde de la bande dessinée, hein, puisque les meilleures ventes de livres en France l'an passé, c'était Guillaume Musso et c'était 450 000 exemplaires. Donc avec 300 000 exemplaires, on est vraiment sur des coups très très gros volumes. Et on se retrouve, grâce justement à cette intimité, cette complexité dans le personnage, que moi j'aime beaucoup, et le fait que dans les combats, que moi j'apprécie, sont pas aussi simples que ce qu'on pourrait bien faire.
D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de refaire une suite à Goldorak, ou que s'arrêter là serait mieux ou pas?
Je trouve qu'en quasiment 150 pages, ils ont réussi à apporter une dimension qui permet une belle clôture. Maintenant, la force de ce personnage-là, qui est un personnage mythique, c'est qu'on peut le déployer de plein de manières différentes. Pourquoi pas envisager autre chose? Maintenant, il faut garder en tête que c'est un travail énorme qui a été fait par ces cinq personnes, tellement colossal que ça leur a pris beaucoup plus de temps de travail que le BD classique. Les 150 pages, il faut les sortir. Et donc, il faut aussi comprendre que ce sont des gens qui ont peut-être d'autres projets.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Allez.
Yvonne Bertorello est un journaliste, réalisateur de documentaires et un scénariste de bande dessinée. Ancien séminariste et diacre, son champ d'intervention est généralement centré autour des questions de religion et il est considéré comme un spécialiste du Vatican.
Qu'est-ce qui vous inspire dans la plupart de vos BD?
Alors, moi, en tant que scénariste, en tant qu'auteur de BD, je fais des choses assez éclectiques. Il y a des auteurs de BD qui sont spécialisés dans la jeunesse, l'histoire, et encore des fois plus précisément l'armée ou le sport. Moi, c'est très éclectique. Comme je suis scénariste et auteur, je peux m'associer à des dessinateurs, des auteurs qui ont des styles différents. Et je propose des sujets très variés. Vous voyez, ça, c'est sur la tempête Alex, qui a ravagé les vallées de l'arrière-pays niçois il y a 2 ans. La suite sortira le 26 octobre. Ça, c'est une série chez Dargaud pour la jeunesse. Vous voyez, le style est un peu héroïque, fantasy. Et on fait la promotion des énergies renouvelables et naturelles. Le tome 1, c'est la géothermie. Et c'est chez Dargaud, avec Cédric Fernandez, Eric Soto, Eric Stoffel, Serge Scotto. Disons qu'à travers une fiction, il y a des informations scientifiques sur les énergies renouvelables et naturelles. D'où vient l'eau chaude? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau chaude? Se chauffer, s'éclairer. Vous voyez, c'est à la fois ludique et didactique. C'est des choses très, très, très variées que je fais. Entre ce style-là et celui-là, il y en a. C'est extrêmement varié. Ça, c'est encore une autre BD qui est inspirée d'un manuscrit qu'on a trouvé dans une pièce cachée à Morange, en Lorraine. Vous voyez, c'est très varié. Et je fais une série sur le monde romain aussi, la série Ad Romam. C'est encore un tout autre style, très réaliste, on va dire une BD franco-belge. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'il faut faire des études particulières pour pouvoir faire des BD?
Alors, il existe des écoles de dessin. La plus connue, c'est celle d'Angoulême ou Saint-Luc en Belgique. Mais en fait, la plupart des auteurs de BD ont appris sur le tas et découvrent à un moment donné qu'ils ont suffisamment de talent pour publier une bande dessinée. Et quelquefois, vous avez des boulangers, des charcutiers, des ingénieurs, des professeurs qui se mettent à publier. Et quand ça marche, ça devient leur métier principal, quoi, leur source principale de revenus.
Est-ce qu'on peut vivre de ce métier, on va dire?
Justement, c'est ce que je vous disais, on peut en vivre à un certain moment, oui, si ça commence à marcher en librairie. Enfin, c'est pas évident au début, hein, pour se faire connaître, pour vendre des BD. Vous voyez, si vous vendez moins de 10 000 BD, vous ne pouvez pas en vivre, c'est pas possible. Pour en vivre, il faut en vendre 30 ou 40 000, vous voyez, dans l'année. Disons tout BD confondu, autrement on ne pouvait pas vivre. Quand vous pensez qu'un autre, s'il y a deux ou trois auteurs sur une BD, il va gagner 60 centimes par BD, vous imaginez ? C'est, pour comprendre, c'est ça. Et 60 centimes par BD, vous faites le calcul, hein, pour avoir un revenu décent, il faut en vendre. Hein. C'est pas évident comme métier.
À partir de quel âge vous avez commencé à faire des BD, à écrire ?
Alors moi, je suis venu à la bande dessinée presque par hasard. Je suis historien de formation, mais j'avais faisais des romans chez et des essais chez Albin Michel. Et un jour, j'ai présenté un manuscrit, et mon éditeur m'a dit « Ah ben non, ça, c'est pas un roman, c'est plutôt une bande dessinée. » Et c'est comme ça que je suis allé voir Glénat, qui est l'un des principaux éditeurs de BD en France. C'est vraiment par hasard que je suis arrivé à la BD.
Vous avez toujours fait plusieurs styles de BD sur différents genres, ou pendant un moment dans votre carrière, vous vous êtes fixé
Alors, généralement, je fais des BD historiques, très réalistes. J'ai une série qui s'appelle Ad Romam, c'est sur le monde romain, dans nos trois régions, la Via Julia, la Via Aurelia, vous connaissez, puisque vous habitez l'Orgue, et les Romains ont été très présents chez nous. Et là, c'est pareil, je mélange fiction et réalité historique, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Là, c'est deux ados, quatre ados, deux garçons et deux filles, qui nous emmènent voir les monuments romains de la région, dans le sud-sud-est. Et chaque fois, on remonte en arrière, et des flashbacks historiques, et tous les flashbacks sont vrais. Donc, on se divertit en apprenant. Mais je ne fais pas que des BD historiques. Les circonstances m'emmènent à faire d'autres choses. Il y a eu la tempête Alex il y a 2 ans, donc j'ai fait une BD là-dessus. Ça, c'est sur les énergies renouvelables et naturelles, avec un style un peu héroïque, fantasy. C'est très, très varié ce que je fais. Vous pouvez approcher, madame.
On l'a envoyée dans notre lycée, celle-ci.
C'est possible. Ouais. C'est la région qui vous l'a envoyée, alors. Mais celle-là, vous devriez la prendre. C'est super, hein. Ah oui.
Est-ce que vous avez déjà essayé de faire passer des messages particuliers avec vos BD ?
Moi, c'est ce que je fais quasiment dans toutes les BD. Là, c'est une BD mémorielle, témoignage. Ça, c'est une BD qui fait la promotion des énergies renouvelables et naturelles. Parce que c'est l'avenir, hein. L'écologie, c'est l'avenir. Il faut se détourner des énergies fossiles pour essayer d'exploiter le mieux possible les ressources naturelles qu'on a sur cette planète. Et là, le tome 1, chez Darbeau, les Monts d'Arverne, le tome 1, c'est la géothermie. D'accord. Donc, il y a une fiction, mais à travers cette fiction, on va faire la promotion de la géothermie. D'où vient l'eau chaude, les volcans, le magma ? Qu'est-ce qu'on peut en faire, se chauffer, s'éclairer ? Voilà. Donc c'est pour la jeunesse, mais tout le monde peut lire ça. Hein. Donc je fais toujours passer des messages. J'ai une BD beaucoup plus sérieuse qui sortira en février sur les justes parmi les nations. C'est les non-juifs qui ont caché et sauvé des juifs. Et le réseau Marcel dans les Alpes-Maritimes a contribué à sauver 537 enfants juifs. Entre autres grâce à l'évêque de Nice, Mgr Raymond, sous l'occupation, qui est juste à Yad Vashem, à Jérusalem, et ils ont caché les enfants un peu partout. Vous voyez, je vous mets des messages contre l'antisémitisme, pour la tolérance, la fraternité, etc. Donc, dans une BD, vous pouvez faire passer des messages bons ou mauvais.
D'accord.
Ça peut être un lieu de propagande, une BD. On peut tout faire passer.
Est-ce que vous aurez un conseil à donner aux potentielles personnes qui voudraient faire de la BD ou...
Alors, moi, je recommande fortement de faire une bonne école. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs de BD, un peu autodidactes, de dessinateurs, de scénaristes. Et il y a, à mon avis, il y a trop de publications chez les éditeurs. Et trop de publications, ça nuit. Les nouveaux, ils ont du mal à percer parce qu'il y a tellement de BD qui sortent. Et c'est les éditeurs qui sont responsables. Ils veulent absolument publier, sortir des bandes dessinées, et c'est un peu au détriment des auteurs. Donc je recommande aux futurs auteurs de vraiment d'être très bons, de faire une école de dessin, de se documenter, de vraiment travailler. Et là, ils ont une chance de percer chez un éditeur, parce qu'il y a beaucoup trop de publications. Ça, c'est mon avis.
D'accord. Ben, merci à vous, monsieur, d'avoir répondu à nos questions.
Et... merci de votre intérêt pour la bande dessinée. J'espère que vous en lirez.
Depuis plusieurs années, René Frény anime des ateliers d'écriture dans la prison d'Aix-en-Provence et celle de Beaumet à Marseille. N'ayant pu l'interviewer par manque de temps, nous vous proposons une séquence de France 3.
Tout est là-dedans.
C'est deux vies là-dedans. Il y a mes deux vies. Une vie jusqu'à 19 ans, sans livres. Un minot de Marseille, rebelle, les 400 coups, renvoyé de tous les lycées, échec au BEPC. Et puis 6 mois de prison militaire, un enfant rebelle qui devient un adolescent rebelle. 6 mois de prison et en prison, je découvre la littérature.
Et vous savez que René va travailler en prison, dans toutes les prisons. Et il a une phrase qui dit « le livre libère ».
Est-ce que le livre apporte de l'humanité et forcément de l'humanité en prison où c'est un lieu
exactement,
où il y en a peu?
Exactement, c'est ça. Et en prison, souvent, les gens qui sont en prison n'ont pas accès au livre. Quand ils y ont accès et quand on les aide à avoir accès, tout d'un coup, ça change leur vie. Mais ça les prépare à la sortie. Parce que si les gens les laissent dans leur cellule, sans intérêt, sans qu'ils aient quelque chose pour s'évader dans leur tête, bien entendu, eh bien, quand ils auront cette occasion, alors ils pourront sortir et ils continueront à être des êtres humains.